Comme tous les mercredis, nous retrouvons Julien Kistrobert de Taylor AM pour faire un point sur les marchés. Bonjour Julien.
Bonjour Baptiste.
Alors en ce début de semaine, on a eu quelques indicateurs qui montrent un retour de l'inquiétude sur l'inflation avec des petits rebonds. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être durable ou c'est juste un rebond épisodique selon vous?
Ce qui est intéressant sur cette publication, c'est qu'on a un PPI qui refait en mode février à plus 0,6 hein, contre un consensus à plus 0,3. Donc c'est assez substantiellement au-dessus des attentes. Ce qu'on voit, c'est que c'est la composante énergie hein, qui rajoute un peu d'inflation dans le système du côté du PPI. Donc c'est clair qu'on est, ça va un peu à l'encontre de tout ce qu'on a vu sur les CPI par le passé. Donc la partie consommateur, toute la baisse de l'inflation quasiment qu'on a eue ces derniers temps était liée à la composante énergie, qui est la partie la plus volatile. Donc l'effet de base est moins favorable. Donc c'est pour ça qu'on voit un petit peu ce nouveau mouvement. Et à côté de ça, on voit que sur la partie service, ça reste quand même assez solide avec des hausses de salaire qui se poursuivent. Et donc voilà, donc en tout cas, beaucoup de points d'attention et à voir ce que nous disent les banquiers centraux dans les prochaines semaines.
Oui, la conséquence, c'est que le discours de la Fed de ce soir est un peu plus attendu. On s'attend à un statu quo malgré tout.
Oui, ce sera toujours un statu quo, mais ce qui va être surveillé, c'est plus le discours, hein, notamment est-ce qu'il considère que les chiffres d'inflation s'approchent un peu plus d'une zone où il pourrait intervenir, oui, non. En tout cas, pas d'intervention avant juin, c'est certain. D'ici là, on aura encore ces chiffres d'inflation et d'emploi qui permettront de se faire un peu plus une opinion, en tout cas, sur la direction que pourrait prendre la Fed. Ce qui va peut-être être surveillé, c'est le dot plot. Hein. Est-ce qu'on a une évolution du scénario de la Fed? C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on a eu des chiffres plutôt avec plus d'inflation, plus de croissance économique. Et donc, si on a une révision à ce niveau-là, c'est vrai que, en tout cas, sur la perspective de baisse de taux, ça pourrait être un petit peu négatif. A contrario, si les perspectives de croissance restent solides, ça reste un facteur de soutien assez fort, naturellement pour les actions.
Alors, il y a une autre banque centrale qui a un peu changé sa politique, c'est la banque centrale du Japon, avec la fin des taux négatifs qui semblait un peu immuable. Alors, pourquoi ce choix et est-ce que ce passage en taux positif, c'est plus symbolique qu'autre chose ou c'est un vrai changement de paradigme pour le Japon?
À ce jour, ça reste symbolique, hein, puisqu'on reste sur des taux extrêmement bas de toute façon, et surtout si on compare avec les autres économies avancées. Donc très clairement, on a un petit mouvement, et ça s'explique assez facilement, hein. Le Japon commence à avoir un retour de l'inflation, et puis il y a des hausses de salaire assez importantes qui sont en train d'être négociées. Un des gros syndicats du Japon a annoncé avoir négocié une hausse de salaire généralisée de 5%. Plus emblématique, Nippon Steel annonce une hausse de salaire de 14%. Donc on voit que même le Japon commence à voir en tout cas les effets de la création de masse monétaire et ce mouvement inflationniste qui est en cours, même pour eux qui jusqu'à maintenant ne subissaient que très peu de conséquences.
Alors, on va finir avec l'ouverture ce matin et sur le CAC 40 notamment, avec Kering qui a un petit peu refroidi l'ouverture, avec des annonces plutôt négatives sur leurs prochains résultats.
Oui, des annonces très négatives. Hein. On savait que Kering était le maillon faible hein, dans le secteur du luxe. Enfin, Kering, en tout cas, surtout sa marque Gucci. Et ça se confirme. Hein. Ils annoncent une baisse du chiffre d'affaires de près de 20% sur le premier trimestre, avec notamment des déceptions au niveau des ventes au niveau de l'Asie. Pour vous donner une idée, au niveau du groupe, ça veut dire moins 10% de croissance du chiffre d'affaires contre un consensus à moins 3. Alors, c'est vrai que Kering était l'une des moins chères du secteur déjà, hein. 15 fois les résultats contre 25 fois pour LVMH. Mais on voit une nouvelle fois que la qualité est un petit peu faible. Alors, est-ce que c'est précurseur d'autres résultats un petit peu difficiles sur la zone asiatique? Compliqué à le dire à ce stade, puisqu'on sait, la marque, encore une fois, Gucci, est certainement la plus faible. Et à côté de ça, les autres marques du groupe, que ce soit Yves Saint Laurent ou Bottega, se portent plutôt bien.
Merci beaucoup Julien pour ce point sur les marchés.
Retrouvez nos podcasts sur Spotify, Apple Podcasts et sur toutes les plateformes d'écoute.